Alors, Samach Dalet Amud Aleph. Donc, nous avions vu l'histoire du Tashma, Vaïz Akub et Kol Gadol, El Hashem Eloke, Maï Amour, qu'est-ce qu'ils ont dit? Amar Abida, Veiteima, Rabbi Yonatan, Bye, Bye, ou Bia, ou Boy, ou comme vous voulez. Je ne sais pas exactement comment il faut le lire. Haïnu, comme on avait dit, hein, moi je penche plus pour Boy que Bye, mais ce n'est pas grave. Haïnu de Achreve le Beite, c'est celui qui a détruit la maison, le temple, Vekali le Echala, il a brûlé le Echal, Vekatlinu le Tzadiké, il a tué les Tzadikim, Vekatlinu l'Israël, Marayu, il a envoyé en exil, il a exilé les Bnei Israël de leur terre, c'est celui le responsable de tout ça. C'est pas joli de se décharger sur les Yetzirahara comme ça, c'est lui le responsable. Le responsable, c'est ceux qui ont écouté les Yetzirahara, c'est pas les Yetzirahara, les Yetzirahara ont fait son job. Mais bon, c'est une façon de parler, ça veut dire s'il n'y avait pas lui, on n'en serait pas là. So. D'abord, c'est qu'un lionceau. Et ensuite, non, je rigole. Et c'est pas parce que c'est difficile. Si c'était impossible de résister, ok, mais difficile, c'est pas une réponse. Hein. Difficile, difficile, c'est le job.
Dire impossible.
Ah, impossible n'est pas français. Alors, le Ve'adain Meraket Beinan, mais il est encore en train de danser parmi nous, c'est-à-dire le Tzera est toujours là présent, il nous a fait faire tout ça, et malgré tout, on ne le repousse pas encore. C'est-à-dire qu'on se fait avoir, en fait, finalement, par le Tzera. Kloumi Heftelan, elle a l'équiboule et Be'agra, la seule raison pour laquelle tu nous l'as donné, c'est pour avoir du salaire, pour être méritant, justement, de lutter, de ne pas se laisser avoir et savoir ce qu'on veut et faire les efforts soi-même, c'est comme ça qu'on se construit. Si c'est comme ça, on te dit Lo iu beinan velo yagre beinan. On ne veut ni de lui ni de son salaire. Donc c'était la couchée, on voit bien qu'il y avait un etzara sur Avodazara spécifique. Réponse Batar de Avikoube. C'est vrai, mais c'est après qu'il se soit attaché à lui, après qu'il se soit attaché au etzara de l'Avodazara. Là, ils sont devenus intimes et amis et attachés et dépendants, etc. Mais au départ, non. Yatvut, Lata, Yome, Beta Anita. Alors ils ont fait 3 jours de Ta'anit. Pendant 3 jours, ils ont jeûné. Ils ont fait un Ta'anit pendant 3 jours. Si on commence à avoir faim au bout de 3 jours quand même. Hein. Ils ont fait. Comment ? Alors, la Pachut, ici, c'est pas écrit jour et nuit, mais la vérité, c'est que dans la Gemara Yoma, si je ne m'abuse, dans Yoma, Daf Samachet Amoudbet, là-bas, c'est écrit jour et nuit. Ah bon ? Yuta aussi.
On dit pas qu'il y a un homme qui meurt.
On n'a pas dit plus, on a dit 3 jours. On n'a pas dit plus de 3 jours. À part ça, on ne dit pas qu'un homme meurt si jeûne plus de 3 jours. Mais quand bien même le dirait-on, on n'a pas dit plus ici, on a dit 3 jours. Dans la Gemara ici, ce n'est pas mouchar que 3 jours voulait dire 3 jours et 3 nuits, peut-être c'est que 3 journées. Mais comme il y a la même histoire dans Yoma Samartet, et là-bas c'est explicite jour et nuit, alors bon, apparemment ils ont décidé 3 jours et nuit. Dans le Torah Traim ici, le commentaire du Torah Traim, il écrit, il dit pourquoi 3 jours d'Afka ? Pourquoi les Inyan de 3 jours ? Il a jeûné de 3 jours. C'est quoi ce Inyan ? Comment on arrive à 3 jours ? Il dit, c'est écrit dans le Midrash sur Esther Rabba, le Midrash sur Esther. Non, mais il ne donne pas la référence, mais c'est dans Parasha Tet, Siman, Bet. C'est aussi dans le Bereshit Rabba, dans Parasha Nunvav, Siman Aleph, et dans Bereshit Rabba, Parasha Tzadik Aleph, Siman Zayn. Et aussi dans le Shochar Tov sur Tehilim, Mizmor Chav Bet. Bref, le Midrash, dans beaucoup d'endroits, dit « Ein Israël netunim betzara yoter mishlosha yamim ». Les Juifs ne sont pas laissés, abandonnés dans leur tzara plus de 3 jours. On ne les laisse pas plus de 3 jours dans la Tzara. Et le Midrash illustre ça avec Abraham, dans lequel il est écrit « Bayom Ashlishi Vaïssa, Abraham et Enav » etc. qu'au bout de 3 jours, il a eu sa satisfaction. Il y a encore d'autres, et le Midrash dit aussi les Shvatim. Dans les Shvatim, il est écrit « Vaïessof Otam El Mishmar Shloshet Yamim ». Ils ont été enfermés pendant 3 jours en Égypte, vous vous rappelez. Donc là aussi, c'est 3 jours. Donc il y a toujours la même histoire. Dans Yona, dit le Midrash, qu'est-ce que vous savez sur Yona ? Où est-ce qu'il a été enfermé pendant 3 jours ? Dans le... Je ne sais pas si une baleine, un poisson, un animal marin, je ne sais pas quoi, dans le monstre marin. Et le Passouk appelle ça un dag, un poisson. Alors vous allez me dire, la baleine, c'est pas un poisson, c'est un mammifère. Bon, d'accord. Un animal marin, je pense qu'en hébreu, dag, c'est tout animal marin. Enfin, peut-être pas en hébreu moderne, mais en hébreu biblique, dag, c'est tout animal marin. Donc c'est pas la fin du monde si on l'a appelé dag, même si c'est un mammifère. Je sais pas quel animal c'était exactement, en tout cas, il doit être assez gros pour pouvoir avoir la place dans sa bouche pour Yona. Bref, et on voit à chaque fois, c'est combien de jours ?
3 jours,
dit le Midrash, qu'est-ce qu'on voit aussi dans Esther? Qu'il y a eu 3 jours, Ta'anit, chez Esther aussi. Donc c'est toujours 3 jours. Je comprends pas trop ce Midrash, mais c'est pas le sujet maintenant. Je vous dis ce Midrash à gaffe, parce que le Torah Traïm en parle. Je comprends pas trop. C'est quoi que les bénis Israël, ils sont jamais en souffrance plus de 3 jours? Ma commande, réveille-toi, ouvre les yeux. Ma. Je comprends pas. Où t'as vu ça? Où t'as vu ça? Ah, il était machin. On nous dit par exemple sur les Shvatim qu'ils ont été enfermés pendant 3 jours. Je vous demande qui est-ce qui a été enfermé plus que 3 jours? C'est Yosef. Qu'est-ce que tu veux les Shvatim 3 jours? Et alors? Yosef, il a fait beaucoup plus que 3 jours. Nahon Olo. Pourquoi c'est pas sûr?
Parce qu'à un moment, il a été relevé, il a été mis comme patron à chaque endroit où il est arrivé.
Oui, mais on, là on parle de, il est au Mishmar, il est enfermé. Enfermé, il a été enfermé plus de 3 jours. Il ne faut pas charrier.
C'est lui qui dirige tout ce qui se passe. L'enfermement est déjà.
Mais c'est
pas là.
Mais d'où ça fait.
Comment c'est, qui a été enfermé volontairement? Ni Yosef, ni les Shvatim.
Non, c'est quelqu'un. Le Midrash dit que le juif, il ne peut pas plus de 3 jours sans invoquer la miséricorde. Non,
c'est pas ça. Je sais pas ce qu'il dit, je sais pas. Non. Il dit que les Israël ne sont pas Betsara plus de 3 jours.
Ça sera un jeûne pour justement pouvoir invoquer la miséricorde divine.
Oui.
Trois jours de jeûne.
Donc quel rapport avec ce que le Midrash dit? Le Midrash nous parle de Abraham, dans lequel vous remarquerez, by the way, que c'était Bayom Hachelichi. Donc c'est pas 3 jours, c'est 2 jours et demi. Je refais la parenthèse. Le Midrash parle de Abraham, parle de Shvatim, parle de Yonah. Je sais pas trop, mais peu importe. Regardez, peu importe, c'est pas le sujet. Et je vous pose une question. Les Bnei Israël, ils ont pas râlé en Égypte pendant 210 ans? Et ils n'étaient pas en train de pleurer, de, ah, au secours à l'aide.
Ils n'ont pas fait 200 ans de jeûne. Là, on vient,
Abraham, il a fait un jeûne maintenant, et les Shvatim, ils ont fait un jeûne maintenant, et Yonah, il a fait un. Yonah, il a dû faire des grillades à l'intérieur du poisson, il a dû avoir plein de poissons, il a dû manger du poisson, des sushis, il a mangé, c'était cru.
Il s'habitue à la situation, peut-être.
Excellent. J'ai encore autre chose à dire. 3 jours, c'est 72 heures. Excellent aussi. Mais quel rapport? C'est vrai, mais quel rapport? Qu'est-ce qu'on gagne à dire ça? Ce que je veux maintenant, c'est le Midrash. Le Midrash dit, ça n'existe pas qu'un juif, il ait 3 jours dans la souffrance. C'est pas vrai! Vous êtes d'accord avec moi quand même? Rassurez-moi sur ce point.
Même si volontairement, qui se met
c'est ce qu'il a déjà dit, je ne sais pas le cas. Il s'est pas mis, ils ne sont pas mis les Shvatim en prison volontairement. Oui.
Il y a une nature humaine à vouloir s'en sortir. Et peut-être qu'elle se réveille à 3 jours.
Excellent. Tout ce que vous dites, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça ce que dit le Midrash. Vous dites que des choses vraies, mais qui ne viennent pas répondre à notre problème. Ok, c'est vrai tout ça, mais ça répond pas à notre problème. Notre problème, il n'est pas. Notre problème, c'est qu'est-ce que tu me racontes que les Israël ne sont pas Betsara plutôt? Alors, on pourrait imaginer que Kavanat Amidrash, c'est uniquement enfermé. Les Bnei Israël, ils n'étaient pas, pendant 210 ans en Égypte, ils n'étaient pas enfermés en prison. Et là, on a parlé des Bnei Israël en prison, des Shvatim en prison, de Yonah en prison. Oui, c'était pas une prison, mais c'est tout comme, en internement, etc., etc. D'accord, mais c'est pas vrai parce que Abraham, il n'était pas en prison. Et on l'a mentionné. Donc, je sais pas, ce.
Qui est différente,
pour
un jour, on
ne
sait pas ce que ça représente
à nous. Ici, on parle des journées de Abraham, 3 jours, on parle des journées des Shvatim, c'est 3 jours, c'est les psukim qui parlent de 3 jours. Les mêmes psukim parlent de 3 jours, parlent de beaucoup plus de 3 jours pour Joseph et de beaucoup plus de 3 jours pour les Juifs, les Hébreux en Égypte. Bon, regardez, c'est une parenthèse, c'est un midrash que le Torah Traim mentionne, on ne va pas s'attarder maintenant sur ce midrash, je vous dis juste.
Sur le 3 jours, justement 3. Quand il devait partir 3 jours d'Égypte pour être libre,
Oui, bien sûr qu'il y a plein de choses avec ce 3. En tout cas, ce que le Torah Traim veut dire avec ce Midrash, c'est quoi? Le Torah Traim, il veut dire, voilà la raison pour laquelle ils ont jeûné 3 jours. C'est parce qu'on va toujours jeûner 3 jours. Ok, super. Enfin, on pourrait se demander, quoi, je crois qu'ils auraient pu jeûner plus. S'ils avaient trouvé que venir Israël, ils sont restés 210 ans, on va jeûner pendant 210 ans, Maatarotse. Ouais. Donc je sais pas exactement quel est le Cheshbon ici. Dans le Rav Reuven Margolyas, dans son commentaire sur le Sefer Chassidim, qui s'appelle Mekor Chesed. Dans Mekor Chesed, sur Sefer Chassidim, comment? Siman Kuf Samer Zain, Ot Yudbet. Rav Reuven Margolyas, il dit comme ça, il dit, on voit dans le Shohar Tov, là-bas, dans Parashat, dans le Mizmor Chavbet du Shohar Tov, sur le pasouk de Esther, dans lequel est écrit Vetsomu alai ve'al tochlu ve'al tishtush lochet yamim laila ve'yoim. Là-bas, c'est explicite dans le pasouk laila ve'yoim. Ne mangez pas, ne buvez pas pendant 3 jours. C'est dans le 4e chapitre de Esther. Alors le Shohar Tov, le Midrash, dit là-dessus. Shohar Tov, c'est le nom du Midrash sur Tehilim. Il mentionne ce pasouk dans Esther et il dit Yachol, Yiyut, Samim, tu crois vraiment que c'est possible qu'il puisse jeûner Laila Vayom, Gimel, Yamim, tu crois vraiment qu'ils vont jeûner et la nuit et le jour pendant 3 jours et 3 nuits? Velo Ayumetim, Tu crois que c'est possible, ça? Quelqu'un va jeûner 72 heures consécutives et il ne va pas mourir? Non mais attends, ça va à la tête. Le Midrash dit ça sur ce qui est écrit dans Esther. Et dans Esther, c'est explicite. Là, il a Vayom. Ouais. Le Midrash dit, tu crois que c'est possible un truc pareil? Faut réfléchir dans la vie. Pas possible qu'il reste 72 heures sans manger, sans boire et rien du tout, 72 heures consécutives. Et là, alors quoi? Alors quoi? Dit le Midrash. Hayu mafsikim mibeodium. En fin de journée, il cassait la croûte. Et il reprenait pour un nouveau jeûne de 24 heures moins 2 minutes.
Ramadan.
Comment?
Le Ramadan.
Ramadan, c'est pas la nuit, c'est que le jour.
Et la nuit.
Oui, mais le Ramadan, il peut manger toute la nuit. Même le matin. Et s'il veut faire une nuit blanche et dormir et manger toute la nuit, il peut. Oui.
Voilà, je sais pas si c'est en fait Facebook que j'ai entendu ces paroles, mais il y a des films.
J'y arrive, très bonne remarque, oui.
Non, après, il y a différentes formes de jeûne. On peut très bien boire un peu d'eau avec un
peu de. Quand on dit Al-Torlou, Val-Tishtou, 3 jours, nuit et jour, ça veut dire tu manges rien pendant 3 jours, nuit et jour, ni manger ni boire. Donc apparemment c'est ce qui est écrit. Mais j'y arrive. Alors Margaliot il dit, on voit de ce Midrash, apparemment, Midrash dit je crois vraiment qu'ils ont pu ne rien manger rien pendant 3 jours, c'est pas possible. Et là ils ont fait des petites assacotes au milieu. On voit de là que c'est pas possible de ne rien manger pendant 72 heures. Tu fais ça, tu meurs. C'est comme ça qu'on a l'impression dans ce Midrash. Et il attaque à partir d'une Gemara dans Maseret Yevamot. Il y a dans Yevamot la Gemara qui interprète ce jeûne de Esther autrement, qui dit que dans le jeûne de Esther, il y a réellement eu 72 heures consécutives sans rien avaler. Parce que la Gemara dit dans Yevamot comme ça. Il y a dans Dafkouf Rafalef, il y a une Mishnah. Et la Mishnah, elle parle là-bas vous savez, les histoires de Maim Shen Laim Sof. Quand il y a une femme qui a perdu son mari, on ne le retrouve plus. Ça s'appelle une Aguna, une femme coincée. Elle ne trouve plus son mari, elle ne sait plus où il est passé. Mince, où je l'ai mis. Entre autres, quand on va à la guerre, ça peut arriver. Entre autres. Mais ce n'est pas forcément quand on va à la guerre. La Mishnah dit que si un bonhomme est tombé à l'eau, Nafal Lemaim, il est tombé à l'eau, quelqu'un est tombé dans la Seine, etc., on ne le retrouve plus. Alors Ishto Asura, sa femme reste interdite. Pourquoi? On ne dit pas dès qu'il est tombé, c'est sûr qu'il s'est noyé. Non, c'est pas sûr. Peut-être, il s'est nagé. Peut-être, il a fait un petit peu de soulope et il est parti plus loin. Il ne voulait plus voir sa femme, il a profité, lui faire croire qu'il était mort. On n'est pas sûr qu'il soit mort. Donc dit la Mishnah, quelqu'un qui est tombé dans l'eau, on ne peut pas encore autoriser à sa femme le mariage. Et là-dessus, dans la Mishnah, dit Rabbi Meir, il dit Maasé, il vient illustrer cette halakha avec un Maasé, avec une histoire, un fait qui a eu lieu à son époque. Vraisemblablement, Maasé, Bechat, Chenafal, Le Boragador, Ve'ala Achar Gimel Yamim. Il y a une histoire, un bonhomme qui est tombé dans Bor Agadol, dans un grand puits, une grande citerne, un puits très profond. Il est tombé, pff, on l'a pas vu ressortir, mais c'était très grand, c'est par ailleurs, on ne sait pas. Ou bien il se fait tout fin, il passe par une nappe phréatique, etc. Bref, il avait disparu, et il est ressorti du trou du bord du puits au bout de 3 jours. Donc tu vois bien qu'il ne faut pas autoriser la femme à se marier, puisque un type il a pu rester dans son trou pendant 3 jours et ressortir après, il est toujours vivant. Et là-dessus, dans la Gemara, ça c'était la Mishnah, dans Yevamot Kufra Falef Amud Aref, dans Kufra Falef Amud Bet, la Gemara ramène que là-dessus les Chachamim ont raconté, une Braïta, les Chachamim ont raconté, ils ont dit là-dessus les rabbins, que les Chachamim ont objecté à Rabbi Meir, on n'amène pas une preuve à partir d'un Maasé Nissim. Tu ne veux pas commencer à me prouver des choses avec des miracles. S'il y a eu un cas exceptionnel où un type a réussi à survivre au bout de 3 jours, c'est un miracle. Ne me dis pas qu'on va fixer la halakha en fonction d'un miracle qui arrive une fois tous les 10 000 ans. Ça c'est la ta'ana des chachamim. Donc ils disent tu ne peux pas prouver à partir de cette histoire du bonhomme qui a survécu plus de 3 jours. Parce que théoriquement, ça n'est pas possible de survivre. Et donc, je vous demande votre attention. Et donc, attention, il y a plus de gens qui regardent là-bas que ici. Regardez. Et donc quoi? La Gemara demande qu'est-ce que les Chachamim voulaient dire par là? Pourquoi ça n'est pas possible 3 jours, demande la Gemara? Pourquoi 3 jours c'est pas possible? Si tu me dis que les Chachamim ont dit à Rabbi Meir c'est un miracle, c'est pas possible parce que 3 jours en principe on doit mourir de faim, dit la Gemara, c'est pas vrai, regarde dans Esther, ils ont jeûné 3 jours et 3 nuits, ils sont pas morts.
Oui.
Attention, on va poursuivre cela, mais je retiens votre attention sur un point. Tilt! Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que dans Esther, c'est vraiment 3 jours et 3 nuits. C'est pas on mangeait la nuit, etc. Il n'y avait pas de pause. Je referme cette petite parenthèse. Et la Gemara continue et dit, alors c'est quoi le problème? C'est parce que c'est pas possible de ne pas dormir pendant 3 jours. Tu crois qu'il vient de nager comme ça sans dormir pendant 3 jours, 72 heures? Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Alors Rabbi Meir, comment il l'interprète? Il dit c'est un miracle? Non, il n'y a pas un miracle. Rabbi Meir, il n'est pas fou furieux. Il va expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Il dit non, il dit dans ce bord, il était assis, il était assis avec des grosses roches. Il n'y avait pas une paroi toute lisse. Il y avait des grosses roches. Et donc il a pu s'agripper sur un truc, se reposer comme ça et dormir un peu sur une roche. Voilà. Il n'était pas obligé de nager pour survivre. Ça, c'est l'histoire là-bas dans Yevamot Kufraf Alef, on la laisse de côté. Mais ce qu'on voit dans la Gemara, c'est que la Gemara a bien compris. Comment ?
Il y avait à boire.
C'est une ta'ana, on va y venir aussi. Non. Non, dans un puits, il n'y a pas de poisson. C'est une ta'ana, hein. On verra ça après. Mais ce qu'on voit déjà, comment ?
Il y a à boire.
Oui, je viens d'en.
Ah, d'accord.
Voilà, et qu'est-ce qu'on voit nous de la Gemara? C'est que selon la Gemara dans Yevamot 121, l'histoire de Esther et des 3 jours, c'était 72 heures. Il n'y a pas eu de break au milieu, contrairement à ce que dit le Midrash, qu'on dit le Rav Margaliot. Voilà, et Ahmed, c'est qu'on peut aussi ajouter la Gemara dans Yoma, vers sa mère tête, à Moudbet, qu'on a déjà cité, où il est écrit qu'ils n'ont pas mangé pendant 3 jours et 3 nuits. Sauf que tu peux dire après là-bas aussi qu'il y a eu un petit F-sec. Bon. Mais dit le Rav Margolies, il y a dans le Yerushalmi de Masechet Nedarim Perekbet à la Kharlef, le Yerushalmi dit que la différence qu'il y a entre une personne qui fait une chevoua de ne pas manger pendant 3 jours, ou une personne qui fait une chevoua de ne pas dormir pendant 3 jours, la différence c'est que celui qui jure de ne pas dormir pendant 3 jours, on le frappe tout de suite, parce qu'il a transgressé, il a fait une fausse joie, c'est joie de chasse, c'est pas possible, c'est l'oïtachin que tu ne dors pas pendant 3 jours. Donc on le frappe tout de suite, il reçoit déjà les coups tout de suite, parce que il a déjà transgressé. Par contre, celui qui fait la joie de ne pas manger pendant 3 jours, alors on attend que finalement il mange, et là on le frappe. Dira Margolès, on voit bien dans cette différence que c'est pas chevoix de chaf de la même manière. C'est pas un truc impossible de ne pas manger pendant 3 jours. Donc ça fait une seconde preuve. Contre le Midrash qui dit que c'est impossible de ne pas manger pendant 3 jours, on voit bien que c'est possible de manger pendant 3 jours. Attention, là aussi, il y a une remarque à faire.
Un, c'est un instinct de survie, et l'autre, c'est il s'oblige lui-même à jeûner. Sur le jeûne.
Qu'est-ce qui est un instinct de survie? Qu'est-ce qui est un instinct de survie?
Le cas du puits, là.
Oui.
Il veut survivre. Donc, quand on est obligé de survivre, on a une motivation différente que quand on s'impose quelque chose de ne pas jeûner pendant 3 jours.
Ok, donc ils auront plus de mal à le faire, mais la question n'est pas de savoir est-ce qu'ils auront. Non, l'autre aura plus de mal à le faire, celui qui se l'impose, mais c'est la question n'est pas de savoir si c'est difficile ou pas. Pour l'exemple, c'est ce qui survit. Si celui qui, par instinct de survie, arrive à tenir 72 heures sans rien avaler, peut le faire, il va survivre, alors celui qui veut y arriver finalement, il veut rien manger, il peut aussi. Est-ce que dans Esther, ils avaient peur de la mort, ils se sont dit à faire un jeûne de 72 heures, ils ont pu techniquement, oui ou non?
C'était pour une raison précise. Là, peut-être
que... La question se pose sur le jeûne de Esther. Est-ce que dans le jeûne d'Esther, oui ou non? D'après vous?
Oui.
Oui. Bon, c'est contraire au Midrash. Voilà.
Là, ils étaient en jeûne de mort aussi, c'est pareil. C'est aussi une question de survie dans le jeûne d'Esther.
Excellent. Mais c'est sur le jeûne d'Esther qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. La question, je vous le rappelle, est de savoir est-ce que dans Esther, ils ont jeûné réellement 3 jours et 3 nuits, oui ou non. C'est tout, il n'y a que 2 options. Il n'y a pas 36 options. Est-ce qu'ils ont mangé un petit quelque chose au milieu ou pas? Oui ou non. Le Midrash dit c'est sûr qu'ils ont mangé, c'est pas possible de survivre. Et là, on amène des preuves que c'est faux. D'accord? On est d'accord? Il y a contradiction. Oui. Voilà, donc ce que je voulais préciser comme remarque, c'est que la preuve n'est pas très puissante ici. Tout comme elle ne l'était pas tout à l'heure avec l'histoire du puits. Dans ces deux preuves, et dans les Yerushalmi, et dans la Gemara Yevamot, il peut boire le bonhomme. Celui qui est dans le puits, il a à boire, c'est sûr. Et dans les Yerushalmi, c'est je vois chez l'eau Ochal, que je ne mangerai pas. Il n'a pas juré qu'il ne boit pas, qu'il ne mange pas. Donc on peut dire, il peut tenir 3 jours s'il boit sans manger. Mais dans Esther, c'était ni manger ni boire. Donc les preuves de Rav Margolies ne sont pas tip-top à ce niveau-là. Il y a un passouk dans Shmuel Aleph, dans le livre de Samuel. Shmuel Aleph péréclamait passouk une bête. À l'époque de David Ameler, c'est lorsqu'ils ont trouvé l'Égyptien, le Ishmitzri, qui était esclave des Amalécites. Hein, vous rappelez là-bas quand il y a un petit Égyptien qui était abandonné sur le chemin par les Amalek, ils l'ont abandonné et il est resté 3 jours et 3 nuits sans manger, sans boire, il était là épuisé. Et les Hébreux, les Juifs l'ont récupéré, l'ont ramassé, ils lui ont donné un peu à manger et ils lui ont demandé alors dis-nous où est-ce qu'ils sont passés à Amalek, il leur a indiqué, etc., etc. Et c'était très bien. Donc on voit bien que là-bas il a rien mangé pendant 3 jours et 3 nuits et il n'a pas fait de hafsaka puisqu'il n'avait pas de quoi faire une hafsaka. Alors à cause de ça, dire Rabbi Margolius, forcément force nous est d'admettre que quand dans le Shohar Tov, dans le Midrash, on dit que ce n'est pas possible de tenir 3 jours et 3 nuits, ça ne veut pas dire que ça n'est pas possible. Quand on dit ça n'est pas possible, ça veut dire que ça n'est pas possible pour tout le peuple. Quand on te dit Al Torlu Val Tishtu, que personne, tous les Juifs, ni ne mangent ni ne boivent pendant 3 jours, etc., ça c'est pas possible. Mais que certains aient la force de tenir, que certains puissent résister et tenir 72 heures, oui c'est possible. C'est ce qu'on a vu. Où est-ce qu'on a vu Pauvre et Cham hein, qui dit c'est possible. Mais dire, à s'imaginer que tout le peuple puisse le faire, ça non. Et il dit très simplement Kalva Chomer d'une halakha qu'on connaît déjà concernant Yom Kippour. Alors Yom Kippour, pourquoi on ne fait pas 2 jours de Yom Kippour? Se fait qu'à des Yoma, comme on fait 2 jours de Rosh Hashanah, comme on fait 2 jours de Sukkot, comme on fait 2 jours de Pessah, comme on fait 2 jours de Shavuot. Pourquoi on ne ferait pas 2 jours de Yom Kippour? Encore une fois, c'est parce que c'est Yingzera, c'est pas possible de te tenir. C'est pas possible que tout le peuple, tous les Juifs fassent un Ta'anit de 2 jours à Yom Kippour. Loïtachen d'avoir kazé, les gens ne tiendront pas. C'est sakana, ça, on va être en danger, ça va mettre des vies en danger. Donc on ne le fait pas, comme c'est écrit dans l'Yerushalmi de Masechet Chala, Perekalef, Alacha Alef, l'Yerushalmi dit Kenizain, de rien manger autant de temps. Il y a quand même des gens qui l'ont fait. Il y a quand même des gens qui l'ont fait. Comme qui est-ce qui faisait Yom Kippour 2 jours chaque année? Qui d'entre vous fait 2 jours? Personne. Qui est-ce qui faisait 2 jours de Yom Kippour? C'est Rava. La Gemara dit dans Rosh Hashanah d'Afraf Alef Amud Alef que Rava il faisait 2 jours de Yom Kippour. Il avait l'habitude de faire 2 jours de Yom Kippour. Comment? Tous l'avaient.
C'est pour ça qu'il a fait 2 jours?
Oui, bien sûr. Comme pour Sukkot. Comment? Non, Yom Kippour c'est le jeûne, c'est pas la prière, c'est le jeûne, le ta'anit. Je dis pas qu'il a fait 2 jours la tefila, et même tefila Yom Kippour il peut la faire seul, c'est big deal. Il y a pas quelqu'un qui se retrouve seul à Yom Kippour, il peut faire la tefila ou pas? Oui, il doit faire la tefila, c'est à Rosh Hashanah que c'est embêtant. Dans les poskim, quand on parle des personnes qui habitent à la campagne, loin, là où il n'y a pas minyan, etc., le moment dans l'année où ils doivent faire l'effort de se déplacer et trouver un petit motel en ville, etc., pour avoir un minyan, c'est pour Rosh Hashanah, pas pour Yom Kippour. Pourquoi? Pas pour la prière, c'est pour le chauffard. Si j'ai besoin, il y a des mitzvot que j'ai besoin d'accomplir, alors je me déplace et je me débrouille pour accomplir la mitzvah, ça d'accord. Mais Yom Kippour, on peut accomplir la prière tout seul dans son coin aussi. Évidemment, c'est plus le même Yom Kippour, mais bon. Mais il est quand même quitte de la tefila. Pardon ? En effet. Au contraire, c'est précisément ce que je suis en train de dire. C'est que quand le Midrash a dit, est-ce que c'est possible d'imaginer qu'il n'ait rien mangé pendant 3 jours et 3 nuits? C'est pas possible un truc pareil. Rav Margaliot a amené des preuves que c'était possible. Et il répond, non, le Midrash veut dire c'est pas possible que tout le peuple puisse jeûner 3 jours. Certains y arrivent, mais pas tout le monde. Donc, dans Esther, on n'a pas jeûné 3 jours consécutifs. C'est ça que dit le Midrash. Ça va mieux? Quelle preuve de quel Gemara? Dans le trou, dans le puits, où il n'a pas mangé pendant 3 jours? Oui? Non? C'est bon. Même par rapport à la preuve, m'écris là un instant, même par rapport à la preuve de Yevamot, Koufra Falev, où on prouve que dans Esther, ils ont jeûné pendant 72 heures, ouais, même là-bas, ça ne prouve pas que c'est la totalité du peuple. Le Midrash parle de est-ce que la totalité ont jeûné 72 heures? Il dit non, il y a eu Afsaka. Ça ne veut pas dire que tout le monde a fait Afsaka. Peut-être ceux qui avaient la force, ils ont jeûné 72 heures.
Après, effectivement, alors on joue sur les mots.
Ah non, pas du tout, pourquoi?
On dit tout le peuple, c'est la majorité du peuple, peut-être, il suffit.
Non, une seconde.
Si je dis les toilettes, et qu'il y en a un qui n'a pas jeûné, bon, c'est pas grave, les toilettes, oui.
Bien entendu. Mais est-ce qu'on peut dire que la masse du peuple a jeûné 3 jours? Non, on ne peut pas. C'est ce que dit en mauvais. On peut pas, c'est possible. C'est ce que dit le Midrash. Pas possible, trois jours, c'est pas possible. Voilà. Ah, et pourtant, on voit que ça arrive. Oui, ça arrive, c'est des cas exceptionnels. Mais c'est pas un truc pas shoot, c'est pas comme ça que ça se passe. En principe, on peut pas.
Dans les peuple de déjeuner, de ne pas manger pendant trois jours, il y a tout le
peuple. Si, justement.
On peut imaginer que tout le peuple le gêne.
Aïe, aïe, aïe. Alors, messieurs, regardez, regardez, j'ai du mal à comprendre comment c'est que monsieur Seban ne comprenne pas, mais j'ai une explication. C'est qu'en fait, chacun parle d'autre chose, donc ce que j'ai dit, l'un l'a pas entendu, etc. Regardez, please, concentration. Je sais que c'est dur quand, voilà, mais bon.
Non, je comprends pas comment on peut faire cette distinction entre tout le peuple, en fait, pas tout le peuple.
Alors, regardez, je reprends simplement et brièvement ce qui s'est passé, sans repasser par toutes les preuves, juste pour que vous ayez le plan de ce que dit Rav Margolis, que ce soit clair. On a dans la Gemara une histoire de jeûner trois jours. Je me demande, est-ce que c'est possible de jeûner trois jours 72 heures? Amène un Midrash qui dit que même dans Esther, c'est pas possible. Le Midrash dit c'est possible, 72 heures, impossible, il serait mort. Donc, ils ont cassé 5 minutes comme ça en fin de journée à chaque fois. Ça, c'est les données de base. Dire à Margaliot, moi j'ai des preuves que c'est quand même possible. L'autre dans son trou, etc., il a jeûné trois jours et trois nuits. Répond à Margaliot, oui, quand le Midrash dit c'est pas possible, il serait mort, ça ne veut pas dire qu'ils seraient tous morts, 100% des juifs. Non. Ça veut dire que certains seraient morts. Donc, il y a un danger. Donc, on ne peut pas demander à tout le monde de rien manger pendant, attention, 72 heures. On peut leur demander pendant 3 jours et 3 nuits, mais pas pendant 72 heures. Comment? Oui, j'ai bien dit cela. Pendant 3 jours et 3 nuits, mais pas, c'est quoi la différence? Est-ce qu'il y a un F-sec ou pas? On peut demander 72 heures avec interruption, 72 heures consécutives? Non. C'est ça que dit le Midrash selon Rav Margaliot. Donc, dans Esther, qu'est-ce qui s'est passé selon ce Midrash? Eh bien, Esther a demandé de ne rien manger 72 heures, dans la mesure du possible. Sinon, tu fais un petit F-sec à chaque fois. Certains ont fait 72 heures, d'autres ont fait 3 fois 24 heures, moins une minute. C'est bon? Très bien. Voilà, maintenant Barour, que c'est possible, comme on a dit. Barour qui a eu des cas, on a Rava qui jeûnait 2 jours de Yom Kippour, et il le faisait quasiment chaque année, donc c'est sûr, c'est possible. Il y a quoi encore? Il y a dans le tour, Rahim, à la fin de Siman Tarkad, il ramène que les chassidés Ashkenaz faisaient 2 jours de Yom Kippour. Il y avait encore des juifs à l'époque des Rishonim qui faisaient 2 jours de Yom Kippour. Donc Vadaï, c'est possible, et même 3 jours, c'est possible. Comme on le voit dans le Rama dans Orchaim, dans Siman Reish, Tzadik Tet, Seivav, le Rama dit que c'est possible de jeûner pendant 3 jours consécutifs, 72 heures, mamash. Là-bas, il dit, les personnes qui font un jeûne de 3 jours, et que c'est dimanche, lundi, mardi, dans ce cas-là, quand elle sait comment qu'il fait Avdala, comment il va faire pour Avdala, il faut boire du vin, comment il fait les 3 jours. Dans ce cas-là, il faut s'acquitter de Avdala par quelqu'un d'autre, sans boire soi-même. Ok? Alors je demande, mais une seconde, si tu fais un petit FC, etc. Vous savez qu'Abdallah, ça court sur 3 jours plafond. Va faire Abdallah le jeudi pour les babosines, hein. Voilà. Alors, comment on fait? Si c'est que pour boire un petit chat, ça dure 30 secondes, t'as qu'à faire un FC à la fin de la première journée, Bonaguide. Ouais. On voit quoi? On voit que le Rama considérait qu'il y avait des gens qui faisaient mamash 72 heures sans s'interrompre. D'ailleurs, le Torah Traim lui-même, là-bas, dit, Torah Traim, il dit que, dans, ici, chez nous, dans Sanhedrin, Torah Traim, il dit qu'il a vu des gens, il a vu que parmi les gens qui jeûnent 3 jours, pendant Aseret Yemei Teshuva, il y avait un minhag, pendant Aseret Yemei Teshuva, de prendre 3 jours ouvrables, hein, et de jeûner 72 heures consécutives. Il a dit, il a vu que le minhag de ces gens-là, hein, est d'ajouter 2 heures. Ils n'en ont pas assez, ils ajoutent 2 heures. Comme ça fait combien d'heures? 74. C'est quoi 74? C'est Aïn Dalet. Aïn Dalet Shaot, 74 heures. Pourquoi? C'est pour être Meramez, le Pasuk, Shuva Israël, Ad Hashem Elokecha. Aïn Dalet. C'est terrifiant, hein. Ils ont fait 72 heures et on s'ajoute encore 2 heures. Bon, là, t'as pas faim au bout d'un moment. Comment? 2 heures pour préparer à manger? Non, les 72 heures, c'est pas des heures, c'est pas un jour interdit de Melacha. Hein? C'est des jours de semaine, ouvrables, donc on peut préparer pendant le jeûne, il n'y a pas de souci. On trouve encore dans Masechet Roulin Daf Peizain Amud Alef que Rabbi a fait 3 jours de Ta'anit. Rabbi, Yativ Rabbi Tzlat Ta'anita. Alors là-bas, les Maïsés, on peut dire, ok, mais c'était que le jour, pas la nuit. Il jeûnait le jour et il mangeait la nuit. Et forcément, on devra dire ça dans beaucoup de cas dans le Talmud où on voit des jeûnes à rallonge. Il y a le jeûne de Rabbi Tzadok. Vous vous rappelez du jeûne de Rabbi Tzadok dans Masechet Gittin d'Afun Vav? Comment ?
40 ans.
40 ans, c'est terrifiant ça. Hein. 40 ans de jeûne, forcément, il faut manger la nuit. C'est écrit dans la Gemara là-bas que Rabbi Tzadok yativ arba'in shnin beta'anita de lo licharev Yerushalayim pour ne pas que Jérusalem soit détruite. Ça n'a pas marché finalement. Peut-être ça a repoussé. Comment ? Non. Bonne mémoire, mais imprécise. Au bout des 40 ans, ils lui ont donné une figue, il a croqué dedans un peu, etc. Il était malade à la fin, vous savez. C'est un, quand Roman Zaka, il a demandé aux Romains, il lui a dit, qu'est-ce que tu veux, trois choses. Une des choses qu'il a demandé, il a demandé un médecin pour Rabbi Tzadok. Qu'on le guérisse, Rabbi Tzadok. Il y a Rabbi Zira aussi, qui faisait beaucoup de ta'aniyot. Rabbi Zira a fait 300 ta'aniyot. 100, 100 et 100. Trois fois 100 jeûnes consécutifs. Ça fait beaucoup 100 jeûnes consécutifs, hein. C'est plus de 3 mois. Pourquoi il a fait 3 fois 100, 100 et 100 une fois, il a fait 100 jeûnes pour ne pas que Rabbi Elazar ben Pedat décède. Parce que s'il décède, alors le Torah, le Hol Tzibur va tomber sur lui. C'est les responsabilités, il va devenir Parnasse. Rabbi Elazar, c'était le Parnasse. Rabbi Elazar ben Pedat, c'était le Parnasse en Eretz Israël. Rabbi Zira, il a fait ça à l'Ialim en Eretz Israël. Et il s'est dit, ici, Rabbi Elazar décède, ça va me tomber dessus, ça va tomber sur mes épaules, et c'est moi qui devrais faire le rabbin. C'est moi qui devrais m'occuper de la communauté. Il dit, j'ai pas envie de m'occuper de la communauté, c'est trop de prise de tête. Donc il a jeûné pendant 100 jours pour ne pas que Rabbi Elazar décède, comme ça il reste tranquille et il n'a pas à s'occuper d'une communauté. Un autre décidera de 100 jeûnes encore, il a jeûné sans autre jeûne pour ne pas que le feu du Gehinnom ait d'emprise sur lui. Vous savez, c'est la fameuse histoire, on est dans Baba Metzia, c'est la Gemara dans Metzia Daf Pei Hei Amud Aleph. En bas, la Gemara raconte qu'il se testait dans le four. On avait dit que Rabbi Zira s'est déjà brûlé la jambe. Vous vous rappelez plus Daf Lamedzain, qui s'était brûlé la jambe, etc. dans le four une fois, verroulé. Ça, c'était encore une autre raison pour 100 jeûnes, et encore une autre raison pour encore 100 jeûnes. Pourquoi ? Pour oublier les interprétations de Torah de Bavel et intégrer celle de Israël. Quand il a fait sa alia, il est parti en Israël, il a voulu se détacher de la Torah de Babel et rentrer dans la Torah d'Israël. Et comment ? Ça devait être un Ashkenaz, pourquoi ? Faire des jeunes autant ? Ah, ouais, j'entends. C'est comme ça, c'est pas le seul.
Il n'est pas ouvert des votes d'Eureka, c'est ça ?
Comme ?
Matin,
On n'a pas dit 100 jours consécutifs forcément à Pessah, petit 1, petit 2, même pour Shabbat, il roura peut-être Shabbat, il mangeait. Peut-être Shabbat, il mangeait. Il a fait 100 jours de jeûne consécutif avec exclusion du Shabbat. Et on a dit de toute façon, il y a exclusion des nuits, hein, c'est pas du consécutif relatif. Il y a Rabbi Yosef qui a fait aussi 40 jours de jeûne, 40 jeûnes à 3 reprises. C'est pas 100 à 3 reprises, c'est 40 à 3 reprises. Rabbi Yosef, il a fait 3 fois 40 ta'aniyot. Pourquoi ? Pour que la Torah l'otamouche mipiv. Ou mi pizarro. Que la Torah ne quitte pas sa bouche, celle de ses enfants et de ses petits-enfants. Dans quoi, la quatrième génération, je t'en fiche, j'ai fini. Elle dit non, une fois, voilà, une fois que la Torah a déjà occupé trois générations, alors Torah mechazeret al arsania shela, ercheu, ça facilite déjà. Ça veut pas dire que c'est une garantie. Il y a eu des fois trois grands chachamim, et le quatrième, plouf, il s'est rien passé. Rakma, ça facilite. Quand il y a déjà trois, le père, le grand-père et l'arrière-grand-père qui étaient épris de Torah, ça facilite un petit peu pour l'arrière-petit-fils. Donc il avait moins, il n'a pas trouvé nécessaire de faire les 40 jours de jeûne pour cela. Il y a Rav Rizda et Rav Huna aussi qui ont fait 40 jours de jeûne parce qu'ils se sont vexés mutuellement. L'un a vexé l'autre, a soupçonné, etc. Et après, ils se sont rendus compte. Alors, ils ont fait chacun de son côté, a fait 40 jours de jeûne dans Baba Metzia, Daf Lamed Gimel Amud Aleph, en bas. Ravuna, une autre fois encore, ça c'est Ravuna, Rav Rizda, par ça, Ravuna, il a fait une autre fois 40 jours de jeûne parce qu'il a sa lanière de tefilin qui s'est retournée. Vous connaissez ce concept ? C'est écrit dans la halakha, celui qui a sa lanière de tefilin qui se retourne pour faire un ta'anit. Lui, il a fait 40 jours de jeûne pour ça. Ah, falpi que quand c'est écrit dans la Gemara, dans Moed Katan, d'Afrafé Amoudbet, mais quand on regarde là-bas dans le Rabbeinu Hananel, dans la Girsa du Rabbeinu Hananel, il n'a pas le chiffre 40. Il est juste marqué ta'anit, mais pas 40 ta'anit. Donc il a fait qu'un jour apparemment. Et c'est de là que vient cette halakha de faire ta'anit quand la lanière des tefilin se retourne. Attention ! Ça ne veut pas dire la lanière se retourner ici. Ça arrive tous les jours. On ferait plus de ta'aniyot qu'il y a de jours dans l'année. C'est l'osien d'Uba. À Falpi qu'il convient d'essayer de les coincer dans la ceinture ou dans le garde pour ceux qui ont le garde, etc. Essayer de faire en sorte que la lanière elle reste ici droite, c'est-à-dire du même côté, du côté noir, pour ceux qui n'ont pas les lanières auto-reverse. Mais il s'agit de la lanière retournée par exemple ici. Ok, pas là, mais là. Tac, tac. Là, si elle est retournée, c'est là qu'on dit que c'est mauvais siman, veut rouler, faut faire un ta'anit, veut rouler. Kamouval, les poskim parlent aussi de ceux qui n'ont pas la force de faire le ta'anit dans ce cas-là, ou qui estiment, ou qui considèrent, ou qui craignent qu'en faisant le ta'anit, alors ils vont moins bien étudier la Torah ce jour-là. Pendant leurs 2 ou 3 heures d'études, ça va être un peu la pagaille, la panique. Alors dans ces cas-là, elle dit, il vaut mieux ajouter du limoud, ajouter de la tzedaka, plutôt que de diminuer les repas. Mange quand même, ne mange pas des bons desserts, mange quand même, et tu mets de la tzedaka, tu podes le jeûne avec tzedaka, et tu ajoutes du limoud, tu t'ajoutes une heure de limoud cette journée-là, et ça remplace le ta'anit, c'est ce que beaucoup de poskim conseillent de nos jours, étant donné que souvent, s'imposer un ta'anit, c'est juste atzat ayetzerara, puisque finalement, ça veut faire une journée où il y aura plus de bitul Torah, moins d'études et moins de mitzvot, parce qu'on aura moins la pêche et moins la forme, et c'est pas le but recherché. Quand Ravuna faisait son ta'anit, ça ne l'affaiblissait pas, il arrivait à continuer sa avodat Hashem normale. Il y a Rabbi Shimon ben Lakish, où on nous raconte aussi un truc extraordinaire dans Yerushalmi de Maseret, qu'il a une perekhet à la Chagimel, là-bas il a écrit un truc phénoménal, que Rabbi Shimon ben Lakish, ça veut dire Rabbi Lakish, il aurait fait 300 jours de jeûne, pour voir Rabbi Chiya Rouba, pour voir Rabbi Chiya, Rabbi Rabba, le grand Rabbi Chiya, qui était déjà mort. Et donc il voulait, sinon il suffit d'aller le voir, c'est pas la peine de faire un jeûne. Hein. Voilà, et il a fait 300 jours de jeûne pour que lui apparaisse Rabbi Chiya. C'est énorme quand même, 300 jours de jeûne, c'est quasiment une année, parce que vous enlevez les Yamim Tovim, je pense en rêve, oui, il va pas le rencontrer dans la rue.
Il avait une question.
Oui.
Une question.
Oui. Voilà, et donc il a fait 300 jours de jeûne pour ça. Je ne sais pas si on prend bien conscience de ce que ça signifie, mais voilà, ça indique en tout cas le niveau d'attachement du bonhomme à la Torah et au Tzadikim. Alors, le 300, c'est souvent une gouzma, c'est possible, et ça peut vouloir dire beaucoup, mais peu importe, ça veut dire qu'il a fait beaucoup, beaucoup de jeûnes. Parce que quand il s'agit que de 40, on nous dit 40. Donc il a fait plus que 40 jeûnes, oulala, déjà s'il fait plus que 3 jours de jeûne pour ça. Ça indique déjà quelque chose. Quand on me dit 300 jours de jeûne, oh, il va voy. Oh, il va voy. Donc c'est peut-être une gouzma et le chiffre est imprécis, mais peu importe, oui.
C'est pas simple, c'est des routes comme par exemple le nazir qui décide de ne plus boire de vin ou ce que tu veux, et Hachem, oh, il n'apprécie pas quand même.
Alors c'est une marloquette dans la Gemara dans Ta'anit. Dans Ta'anit d'Afiud, on dit ça. Il y a une opinion qui dit à Yoshev Beta'anit Nikra Chote. C'est un pêcheur celui qui s'impose un Ta'anit. Voilà. Il y a une autre opinion qui dit non, Chassid. Voilà, ça se discute, ça se discute, ça se discute. Est-ce que c'est bien ou pas de s'imposer pour, comment on peut comprendre une telle marloquette aux antipodes, hein, Chassid, Achoté, Makoreka? La réponse est simple. La réponse est simple. C'est qu'il y a celui qui s'impose un ta'anit sans que cela perturbe sa avodat Hashem. Mais celui qui s'impose un ta'anit et à cause de ça il devient nerveux, tendu, irascible, oh, colérique, bon, il tape tout le monde, ou bien il va moins bien étudier ce jour-là, ou moins faire de mitzvot ce jour-là, il va s'énerver sur sa femme, sur ses enfants. Dans ce cas-là, mon ami, ton ta'anit, il ne suffira pas à faire kapara. Si tu t'es énervé sur ta femme ou sur ton enfant sans raison, ton ta'anit ne suffira pas à te faire kapara. Alors ça ne sert à rien. Ne fais pas de ta'anit dans ce cas-là. Voilà, c'est ça la différence qu'il y a entre celui qui est chassid ou choté, celui qui s'impose un ta'anit et ça l'amène à des péchés, alors c'était pas chacham. Kacha, on peut répondre de manière simple, mais il y a un peu plus à dire, mais quand on sera dans ma sechet ta'anit, bezrat Hashem, blin eder, on en parlera plus en détail. En tout cas, voilà, Shmuel Lakish, il a fait ses 300 jours de jeûne pour voir Rabbi Chiya, ça n'a pas marché. Le Gemara dit velo chamité, il l'a pas vu. Et ça marche pas toujours ces choses-là. Il a essayé au moins, c'est l'essentiel, il a essayé. Yamar bar Ravina, lui, il a battu tous les records. Vous connaissez Ravina ? Là, il s'agit de son fils. Mar Bar Ravina a battu tous les records. Qu'est-ce qu'il a fait, lui ? Comment ? Il jeûnait toute l'année. C'est pas 500, c'est des milliers, ça dépend de sa vie. Il jeûnait toute l'année. Toute l'année, ta'anit. Alors, évidemment, il mangeait la nuit. Hein, parce que, voilà. Il jeûnait toute l'année, sauf, alors la Gemara, elle dit, bizarrement, c'est une Gemara, dans Maseret Psachim, dans Samachet Amoudbet, la Gemara, elle dit que Mar Bar Ravina, il jeûnait toute l'année, en dehors de Shavuot, de Purim, et de Erev Yom Kippur. Vous savez que Erev Yom Kippur, c'est mitzvah de manger, mitzvah de la Torah de manger. Et donc, je comprends pas, ça veut dire que Shabbat, tous les Shabbats, il jeûnait. Ça veut dire que Pessah, il jeûnait. Comment il mangeait la matzah? Ça veut dire que...
C'est évident que...
Alors voilà. Kamouvan, le soir, il mangeait. Avalin kolze, quoi. Et donc le Shabbat en journée, il jeûnait. Le Yom Tov en journée, il jeûnait. Vraisemblablement.
Les Shem Tanit ou les Shem régime alimentaire?
Non, non, les Shem Tanit.
Il y avait un truc comme ça, Shabbat, quand on jeûne, même si c'est pas bien, c'est un bon vin aussi.
Comment?
C'est pas un bon jeûne aussi, le Shabbat. J'avais vu un truc comme
ça. Ça veut dire quoi, c'est pas un bon jeûne, le Shabbat?
Les gens qui, à un certain niveau, ils peuvent jeûner le Shabbat.
Là, il y a une notion qui existe. La Gemara, dans Masechet Brachot, dit que celui qui a vu un mauvais rêve, l'Eil Shabbat, il a le droit de s'imposer la tarnite pendant Shabbat, etc. Parce que sinon, il est trop angoissé pendant le Shabbat. Quand c'est nécessaire pour ce Shabbat, alors oui, ça existe. Mais après, il doit être le chef tarnit al tarnito. Après, il doit faire un jour de jeûne dans la semaine pour rattraper le fait qu'il a jeûné pendant Shabbat. Donc, c'est pas un bon truc en soi. Maintenant, ça peut arriver, mais c'est faut pas rechercher ça. Il y a encore Rabbi Yehoshua. Rabbi Yehoshua, il a parlé une fois chez l'Obederer Kavod sur Beit Shammai. Pas joli ce qu'il a dit. Il a dit quelque chose de pas joli. C'est pas, il n'a pas parlé avec Kavod sur Beit Shammai. Et s'est rendu compte après. Alors, Alach l'Ishtateach al Kivre Beit Shammai est allé dans le cimetière de la Yeshiva Beit Shammai, sur la tombe des Tzadikim de Beit Shammai, pour aller demander Mechila. Et la Gemara a dit, attention, la Gemara dans Chagiga d'Afraf Bet Amud Bet, la Gemara a dit, Ushreru Shinav Mipne Ta'aniyotav. Pas juste qu'il est allé sur les Kvarim demander Mechila. Ushreru Shinav, ses dents ont noirci à cause de ses jeûnes. Tellement il a jeûné qu'il en avait les dents noires. Les dents noires, les dents ne deviennent pas noires quand on jeûne. Ok, ça veut dire les dents sombres, grises, je ne sais pas comment il faut dire, d'accord ? Shachor, ça ne veut pas dire noir en hébreu. Shachor, ça veut aussi dire sombre. C'est pas forcément noir. Ses dents se sont assombries alors, on va dire. Mashu kazé à cause de ses jeûnes. Ça veut dire qu'il a jeûné vraiment longtemps, longtemps et beaucoup et beaucoup. Il y a une histoire similaire avec Rabbi Shimon aussi. Rabbi Shimon aussi, une fois, il a parlé chez l'Obederer Kavod sur son rave, sur Rabbi Akiva. Après le décès de Rabbi Akiva, on lui a dit « Mais quoi, Rabbi Akiva, il pense comme ça, c'est sur une halakha de Touma, etc. Indigne dans la Touma, c'est une Gemara dans ma Masechet Nazir, Dafnun Bet Amud Bet. » La Gemara, elle dit que Rabbi Shimon a dit sur Rabbi Akiva, on lui a demandé « Est-ce que Rabbi Akiva, il pensait... » Vous savez, c'est l'histoire de Revit Dam. On l'avait vu plus haut, Daf Dalet, dans Sanhedrin. L'histoire du Revit Dam, est-ce qu'il est métamé, etc., etc. Un Revit Dam d'un mort, le Revit de sang, qui provient d'un mort, c'est métamé. Et alors, l'expression qu'a eu Rabbi Shimon sur Rabbi Akiva, il a dit quelque chose d'inconvenable, c'est pas joli de parler de son rab comme ça. Et quand il s'en est rendu compte après, alors qu'est-ce qu'il a fait? Lui aussi, Ushreru Shinav Ipne Ta'aniotav, lui aussi ses dents se sont assombries à force de jeûne. Parce qu'il a regretté, Mechila un instant, il a regretté la manière dont il a parlé. La question c'est, qu'est-ce qu'il a dit de si mal sur Rabbi Akiva? Qu'est-ce qu'il a dit de négatif? Il l'a insulté, qu'est-ce qu'il a dit?
Il a remis en question
sa halakha. Rien du tout, c'est ultra léger ce qu'il a fait, ça fait peur quand on voit ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand on l'a demandé ce qu'il disait la halakha comme ça Rabbi Akiva, il lui dit, écoute moi désolé, pour moi Rabbi Akiva a dit que dans ce cas-là c'est tamé. À ma connaissance, Kolyama Vaya Metame, toute sa vie il disait que c'était tamé dans ce cas-là. Imishemet Razarbo Enyedea. Si depuis qu'il est mort il a changé d'avis, j'en sais rien, mais quand il était vivant il disait ça. Bon, ça va. Oh, ça va. Ça va, il ne l'a pas insulté, il n'est pas machin, ça va. C'est une petite boutade, c'est rigolo, c'est tout. Eh ben non, il a fait des jeûnes et des jeûnes et ta'aniot sur ta'aniot parce qu'il a dit ça. Makara. Je ne sais pas, il s'est rendu compte tout seul que c'était pas bien, on n'a pas reproché, donc je ne sais pas bien ce qu'il a fait, il peut se rendre compte seul, ou peu importe, si vous voulez, on l'a fait remarquer, alors on lui a fait remarquer, peu importe.
C'est plus souvent pour la personne qui pose la question sur la vie du Rabbi Akiva.
Et alors? Non, personne n'a posé de question sur la...
Je vois pas où est le problème, mais...
Alors voilà, c'est ce que je suis en train de soulever, c'est que zut, où est le problème là-dedans? Voilà, la Nekuda, c'est que deux choses. Ah, quand même.
On parle d'une personne qui parle d'une personne, c'est-à-dire, je pense.
C'était son rap qu'il a connu, etc., vous voulez dire?
Même s'il n'a pas connu, c'est-à-dire de dire, ouais, ben, s'il était, depuis qu'il est revenu, il y a un côté un peu.
Depuis qu'il est revenu?
Non, c'est-à-dire la façon dont la réponse qu'il a apportée.
Oui. De son vivant, il pensait ça. S'il a changé d'avis après la mort, j'en sais rien. Voilà. S'il n'est pas là, je ne peux pas lui demander.
Il y a un côté. C'est trompé. Non, disons que. Non. Comment il peut changer d'avis depuis qu'il est mort?
Ok. Voilà. C'est le caractère d'une boutade, justement. C'est le côté absurde.
Oui, c'est pour ça qu'il est.
Mais en quoi il y a un manque de cavote par rapport à Rabia? Qui va? Là est la question.
Non, mais,
Pourquoi c'est un manque de kavod? Alors attention, je précise un truc bien évidemment. Quand on dit que c'est un manque de kavod par rapport à Rabbi Akiva, ça ne veut pas dire que Rabbi Akiva dans le ciel, il est peiné, il est vexé, il est humilié et il lui en veut. Non, ma pita. Ça veut juste dire que Rabbi Shimon, il manque de yirat à kavod. C'est ça que ça veut dire. Rabbi Akiva, il s'en contrefiche, dis ce que tu veux, ça ne change rien. C'est Rabbi Shimon qui s'est rendu compte qu'il manquait de yirat à kavod. Je sais que c'est difficile à avaler aujourd'hui, on a du mal à cerner ce truc-là, parce qu'on est loin, loin, loin de ces niveaux-là, il me semble. Mais à l'époque de la Gemara, il y avait une notion de yir'a. Est-ce que Bichlal, ça existe encore aujourd'hui? L'Oyodéa, Oulai. Yir'a, comme il y a une notion de yir'a du père et de la mère, on doit craindre ses parents. C'est quoi la yir'a? Pas la yir'a de recevoir la fessée. Quelqu'un qui a 50 ans et qui a encore son père, il doit craindre son père aussi. Mais pourtant son père c'est un vieux monsieur qui a 80 ans, etc. Qu'est-ce que tu lui veux? Qu'est-ce qu'il va me faire? Pas me taper, pas me donner la fessée? Vous rouler. C'est pas ça craindre. C'est pas craindre la punition. La crainte, c'est cette yirat akavod. La crainte, tellement on honore quelqu'un qu'on le craint. C'est une darga dans le kavod qu'on peut ressentir par rapport à quelqu'un, on le craint. Quelqu'un, il a peur de froisser son père. Il a peur de faire quelque chose qui déplaise à son... Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de frapper, il va rien faire. Qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse? Il a peur de déplaire à son père. Il a peur de faire un truc... Ah, il a cette yirat akavod. Ça, dans la théorie, avant, en tout cas, Rabbi Shimon, il ressentait ça aussi par rapport à Rabbi Akiva. Il avait peur par rapport à Rabbi Akiva, c'était Rabbo chez l'hymne de Torah, Rabbi Akiva qui lui enseignait la Torah, on l'avait déjà dit, c'était un des cinq talmidim de la dernière fournée de Rabbi Akiva. Et il avait, Rabbi Akiva, donc Rabbi Shimon avait peur, quand Rabbi Akiva était vivant, peur de lui déplaire sur un point, que ce soit pas tip-top. Et donc, même après qu'il soit mort, il s'est dit, attends, comment je peux dire Rabbi Akiva parler avec légèreté? Alors oui, en effet, c'est une boutade, c'est pas une insulte sur Rabbi Akiva, mais c'est une parole légère. En principe, quand tu parles de Rabbi Akiva, tu dois être en train de trembler. Et donc, tu ne dois pas être capable, Bichlal, de faire une vanne sur Rabbi Akiva. Sur quelqu'un d'autre, tu peux faire. Mais lui, c'est ton maître qui t'a enseigné, tu ne dois pas pouvoir y arriver. Si tu y arrives, c'est que tu n'as plus cette yirat akavod que tu avais de son vivant. Et c'est là-dessus que Rabbi Shimon, il s'est repris et qu'il a fait des ta'aniyot sur ta'aniyot pour se corriger parce qu'il a compris que ça n'allait pas. Comment il a pu glisser là-dedans? Maintenant, c'est vrai que, qu'est-ce que je vais vous dire? Bismanenu, j'ai l'impression qu'on est très très loin de ces notions-là. Qui aujourd'hui a la yirat akavod devant son rab? Sauf si, c'est vraiment le rab, c'est Jean Gadol Ador, le vieux, le. Comment? On dirait que c'est qui est un parouche? Qui fait quoi?
Ben, qui s'imposerait des jeunes comme ça, pourquoi je fais ça? Parce que j'ai peut-être manqué.
Manqué de respect à mon maître,
c'est ouais. C'est un choté, c'est un parouche.
Pourquoi? Pourquoi il a manqué de respect à son maître? Il fait ta hanit, Mayesh.
Je sais pas, il y a des gens de toi plein dans les.
Attention, il y a deux choses. Gardez en tête le paramètre mentionné tout à l'heure, c'est que les jeunes, les ta'aniyot, ne sont pas ce qu'il y a de mieux aujourd'hui. Aujourd'hui, fréquemment, ça perturbe la avodat Hashem. Les poskim me disent aujourd'hui, vas-y mollo avec, c'est pas bien de faire, moi j'ai toujours fait comme ça, on fait des jeunes et des jeunes. C'est pas toujours bien. Si en jeûnant tu pourras moins faire de avodat Hashem, c'est pas ça l'essentiel, c'est pas jeûner l'essentiel. Le bon Dieu se contrefiche que tu mets en ton ventre, c'est pas ça le but. Il faut être metaken tes midot, il faut être metaken tes mitzvot. Et si tu jeûnes, tu mets rien en ton ventre et tu fais plein de averot, on n'a rien gagné. Et si tu jeûnes pas, mais tu manges un peu sans prendre des ta'avot, juste tu manges de quoi avoir des forces pour pouvoir bien étudier, c'est sûr que ça vaut mieux que ton jeûne. Alors qu'il y a des jours de ta'aniyot fixés par la halakha, c'est une chose, mais s'ajouter des jeûnes parce que je pense que j'ai manqué de respect à mon rav, etc., ne t'ajoute pas des jeûnes, ajoute-toi du limoud, ajoute-toi des mitzvot, ajoute-toi du travail sur les midot, ça oui. Comment? Oui, le avant Rosh Chodesh, c'est un minhag qui existe. C'est Erev Rosh Chodesh, Yom Kippour Katan. Non, c'est Rav Citruc qui aimait ça, c'est ancien, ça fait pas mal d'années qu'on fait ça à Aleph. C'est Yom Kippour Katan, Erev Rosh Chodesh, ou un petit peu avant quand Rosh Chodesh tombe Shabbat, on fait jeudi, etc. Comment? Non, c'est pas spécifiquement Ashkenaz. Rav Citruc est Ashkenaz? Non? Ouais, non? Mais en Tunisie, beaucoup faisaient ça aussi. Maintenant, là aussi, il faut savoir, on peut se dire, waouh, c'est un super projet, etc. Molo, si le fait d'aller faire le ta'anit de Erev Rosh Chodesh, à cause de ça, je ne vais pas étudier ce jour-là, et je vais parler méchamment à ma femme, je ne vais pas la frapper, mais je vais lui parler méchamment, laisse tomber. Laisse tomber. Ça ne sert à rien. Parce que s'il s'agit de faire un péché plus grand, s'il s'agit d'annuler la Torah, ou de parler méchamment à sa femme, ou de vexer quelqu'un, ou de... ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup parce que ça vaut mille, c'est mille fois plus grave que ton ta'anit. Donc autant ne pas jeûner dans ce cas-là.
Et une fois qu'on a ce minhag de faire ce jeûne, on peut le casser, on peut...
Ah, il faut atarat nedarim. Si on veut abandonner, il faut atarat nedarim. Si on sent que ça nous affaiblit trop. On va dire comme ça, quelqu'un a commencé, il y a eu des fois des rabbins qui ont fait ça. Ils ont fait toute leur vie, ils ont fait cette ta'aniot-là. Et arrivé 90 ans, ils n'avaient plus la force, etc. Alors dans ce cas-là, on peut faire atarat nedarim. À cause, voilà, je sens que j'ai plus la force, j'arrive pas à étudier, à faire des mitzvot, à être gentil, ça m'énerve, ça me pèse, etc. J'ai peur de faire des averot et de vexer quelqu'un, de parler méchamment. Alors dans ce cas-là, bon, ben, inerchnami, il faut aller voir un petit bet din, trois personnes, faire atarat nedarim avec un pétard, etc., etc. Mais on peut pas l'envoyer valser comme ça, parce que c'est une bonne hanaga, c'est un truc positif. C'est que si ça amène à des choses négatives qu'on peut faire un pétard et l'annuler. Voilà, donc en tout cas, Rabbi Shimon, c'est pour ça qu'il a fait cet aniyot. Bien sûr, il faut remettre aussi dans le contexte de l'époque, en dehors de la capacité à jeûner qu'avaient les gens apparemment plus facilement avant qu'aujourd'hui, il faut aussi remettre dans le contexte que vraisemblablement, parler comme ça de Rabbi Akiva, ça ne se faisait pas. Ça, c'est des choses qui dépendent d'un contexte et des habitudes. Nous, aujourd'hui, on ne verra pas le problème. Si quelqu'un dit aujourd'hui sur un rave, je ne sais pas, moi, imaginez, quelqu'un va dire sur rave ces trucs, il faisait toujours Ta'anit Erev Rosh Chodesh, donc pour Katan, il pensait que c'était bien. Est-ce que depuis qu'il est Niftar, il a changé d'avis? J'en sais rien. Si quelqu'un dit ça, bah, c'est une boutade, ça va. Il n'y a pas un zizoul ni de rave ces trucs, ni de personne. Personne ne s'offense et personne ne se vexe. D'accord? Voilà. Parce qu'aujourd'hui, bon, ça passe. Donc il y a aussi le paramètre de l'époque. En fonction de l'époque, ça ne se faisait pas se parler comme ça. Donc il y a un problème, et d'où la tshuva de Rabbi Shimon. Il y a aussi dans le Sefer Chassidim, qu'on a cité tout à l'heure, dans le Sefer Chassidim Siman Kuf Samer Zayin, il parle de la tshuva à faire Misheba al Goya, celui qui a eu des rapports avec une non-juive. Il a fait ce péché. Dit la tshuva qu'on doit faire, dit le Sefer Chassidim, dans ce cas-là, il faut faire 3 jours et 3 nuits consécutifs, 72 heures de ta'anit, à 3 reprises. Il dit, si quelqu'un a fait une bia avec une goya une fois, il doit faire 72 heures, encore 72 heures et encore 72 heures. Il dit, s'il le veut sur 3 années ou s'il le veut sur la même année. Attention, je précise encore une fois, à l'époque du Sefer Chassidim, il y avait des gens, voilà, ils jeûnaient à l'Yamin et à l'Smol. Tout le monde, plein de gens faisaient les 3 jours pendant un Seret Yimei Teshuva, 3 jours de jeûne. Ils jeûnaient, je ne sais pas comment ça se fait, mais la nature a changé à ce niveau-là. On n'a plus cette même force. Aujourd'hui, on est habitué à manger à tout bout de champ. On grignote constamment, on mange des petites sucreries, des petits machins. À l'époque, ça n'existait pas tout ça. Vous savez qu'à l'époque de nos grands-parents, un adulte qui mangeait des bonbons, c'était un dégénéré. Ça n'existait pas. Comment ?
Les crêpes.
Bon, ça on a le droit. Je pense moi à mon grand-père, je crois que de sa vie, il n'a jamais mangé un bonbon, ça n'existe pas. Ou là, quand il était petit, il a mangé un petit carreau de sucre, je sais pas si ça existait déjà. Là, il dit, ah, les bonbons, il y avait quoi ? À son époque, il y avait les sucres d'orge, c'est tout. Mais après, étant adulte, l'ohala bedato de manger un bonbon, ça n'a pas de sens. Si je suis pas un bébé, c'est quoi ? C'est imaginez dans 300 ans que les adultes se baladent avec des tétines dans la bouche. Si tu veux, voilà. Mais aujourd'hui, c'est devenu le bonbon, ça fait partie. Il faut manger des biscuits, il faut manger des bonbons, il faut manger du chocolat. Aujourd'hui, tout le monde se goinfre de plein de trucs comme ça. Donc, il y a des différences au niveau alimentaire. Le système, ce qu'on a l'habitude de manger est différent. Le fait de grignoter constamment rend certainement les ta'aniyot plus difficiles. Je sais pas, le Briskerov disait « Khusha yarda laolam » après la guerre, ça devient très difficile de jeûner. L'homme chané, en tout cas, c'est clair qu'avant, les gens avaient vraisemblablement massivement plus de facilité dans les ta'aniyot. Docteur Elbaz voulait dire quelque chose, je l'écoute à présent.
Je vais penser une chose sur les dents qui foncent.
Sur les dents ?
Les dents qui deviennent sombres.
Les dents, oui.
Voilà, c'est un signe de vieillissement prématuré, c'est-à-dire quand quelqu'un a vieilli, ses dents vont foncer. Les cheveux s'éclaircissent, mais les dents foncent. Donc peut-être que vraiment, lorsqu'il est parti dans le quivré de Beth Shammai, non, il
est. C'est Beth Shammai qu'ils avaient, oui.
Peut-être qu'il a pris sur lui, donc il a vieilli prématurément, et donc le signe. Vous prenez des petits papilles, ils ont des dents très foncées.
Ok.
Voilà. Ils rencontrent avec l'âge. C'est un signe de vieillissement prématuré.
D'accord, ok.
C'est physiologique de
ma tête. Ok.
Ils ont pris sur lui des années.
Vous disiez
était sur les qui était valable à l'époque. Si vous le transcrivez aujourd'hui, c'est trop.
Alors aujourd'hui, c'est assurément pas avec des Taaniot. Celui qui peut faire des Taaniot, Al-Yamin Val-Smol, celui qui à la fin d'un jour de Taanit, à la fin de Tisha B'Av ou Yom Kippour, il peut aller faire un tennis sans boire un verre d'eau. Alors lui, oui, on peut commencer à parler de Taanit, mais celui qui a fait une Taanit est affaibli et fatigué, arrête, tu vas faire 3 jours, tu vas mourir. C'est pas possible. L'eau l'air 3 jours, ça marche pas de nos jours de faire 3 jours. Comment? Alors, si déjà, je dirais, voilà, ouais, ben, fais plutôt 24 heures d'études, fais plutôt 24 heures de jeûne, mais pas 24 heures de jeûne, zélo la ignan, klal, enfin 72 heures de jeûne, pardon, zélo la ignan. J'aurais dit, fais 72 heures de limoud. Aïe, mais je dois dormir la nuit. Ok, je dors la nuit. Non.
8 heures.
Ah, même 8 heures, yalla, même 8 heures.
Mais qui dit ça, hein,
de 15 minutes
Oui, bon, on n'est pas en train. Oui, il peut se droguer aussi, il peut, mais on va pas s'en sortir. On va pas lui demander de dormir 15 minutes. On, qu'il fasse une nuit normale, mais qu'il fasse des journées de Torah, Zeya Azor le Fakot. Voilà.
Alors qu'est-ce qu'on va leur recommander?
Peut-être qu'en jeûnant ils n'auront pas la force d'être désagréables.
Non, c'est pas sympa pour nous. Si le jeûne vient de faire quelque chose, il vient travailler Mina. Pour celui en fait qui va le faire, alors il prend le risque d'être désagréable, peut-être.
Oui.
Et celui qui jeûne pas et qui reste désagréable, alors quelle question est qu'est-ce qui peut se rajouter?
Ça change rien, tu veux dire, si je
vois pas. Voilà.
Non, je parle dans un cas. Regardez, je parle dans un cas où le jeûne va aggraver son côté désagréable. Parlons de ça déjà, d'accord? Si le jeûne n'aggrave pas, il est de toute façon insupportable dans tous les cas. Dans ce cas-là, il peut faire son jeûne, il ne songe à rien. Si le jeûne aggrave, ça va pas. Si le jeûne entraîne, ça va pas. Voilà. Et à part ça, celui qui est désagréable sans jeûne, il faut qu'il se remette en question. Il faut qu'il fasse du jeûne pour faire tchouva. Alors, je me rends compte qu'il est tard, qu'on doit arrêter là, mais je me rends compte qu'on avait dit qu'on devait parler du pétek. Oui, vous m'avez pas rappelé ça. Bon, Bezrat Hachem, demain, on parle du pétek alors.